C'est aujourd'hui la cinquième étape de notre série de prédications sur les petits livres prophétiques. J'aimerais prendre quelques instants pour vous proposer un bref récapitulatif. Nous avons débuté notre série avec le livre du prophète Joël. Et le prophète Joël annonce qu'un jour, le peuple de Dieu sera revêtu de l'Esprit de Dieu pour porter la parole de Dieu dans le monde. Cette promesse se réalise à partir de la Pentecôte. Et aujourd'hui encore, chaque chrétien est revêtu de l'Esprit de Dieu pour être prophète, c'est-à-dire porte-parole de Dieu. Et cette annonce de la parole de Dieu dans le monde, qui n'est pas simplement une annonce verbale, mais qui est aussi une annonce incarnée, comporte plusieurs facettes, différents accents, que nous avons relevés dans les livres prophétiques que nous avons parcourus. Nous avons retenu du livre de Joël que cette annonce doit comporter l'annonce d'un jour de l'Éternel, un jour de jugement grand et terrible auquel chaque être humain doit se préparer. Elle comporte également, c'est ce que nous avons vu dans le livre du prophète Amos, une dénonciation des injustices sociales. Elle encourage ensuite à l'amour des ennemis. C'est ce que nous avons retiré de la méditation du livre du prophète Jonas. Et elle nous invite également à la fidélité et à la reconnaissance envers Dieu. C'est ce que nous avons retenu de la lecture du livre du prophète Osée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le livre du prophète Michée pour tenter d'en relever son accent prophétique particulier. Et je vous propose de le faire en deux temps, en nous intéressant tout d'abord à ce que Michée dit à ses contemporains concernant leur situation présente, et en nous intéressant ensuite à ce que Michée annonce à ses contemporains pour des temps à venir. Premièrement donc, qu'est-ce que Michée dit à ses contemporains concernant leur situation? Ce sont les chapitres 1 et 2 d'une part, et 6 et 7 d'autre part, qui se font écho, ainsi que le chapitre 3. Dans les chapitres 1 et 2 et 6 et 7, le prophète Michée souligne que l'Éternel est en procès avec son peuple. « Le Seigneur, l'Éternel, sera témoin à charge contre vous », écrit le prophète, chapitre 1, verset 2. Chapitre 6, verset 2, « Car l'Éternel est en procès avec son peuple, il va plaider contre Israël. » Alors, quels sont les principaux chefs d'accusation? Quels sont les principaux reproches que Dieu adresse à son peuple? Il y a l'idolâtrie, bien sûr, chapitre 1, verset 5. « Et qui donc a promu ces hauts lieux en Juda? N'est-ce pas toi, Jérusalem ?» Verset 7. « Les statues de ces dieux seront toutes brisées. » Il y a également les injustices sociales. Chapitre 6, verset 10, « Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis et des mesures réduites, objet de ma malédiction ?» Et il y a enfin une mauvaise compréhension des attentes de Dieu. Lisons ensemble au chapitre 6, les versets 6 à 8. « Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel ? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut ? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an ? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile ? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute ? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Et ces versets sont fondamentaux, ils nous font réfléchir au type de relation que nous construisons avec Dieu. Comment imaginons-nous les attentes de Dieu à notre égard? Les attentes de Dieu ne sont pas premièrement de l'ordre du faire, c'est-à-dire de la pratique religieuse, mais elles sont avant tout de l'ordre de l'être, c'est-à-dire de la disposition de cœur à son égard et à l'égard des autres. Et le roi David l'avait parfaitement compris. Lisons ensemble dans le livre des psaumes, le psaume 51, les derniers versets. Les versets 18 à 21. Psaume 51, versets 18 à 21. « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocaustes et offrandes totales, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. La disposition de cœur authentique, sincère, n'exclut pas la pratique religieuse, mais elle la précède. Prenons quelques instants pour méditer sur cela. L'Éternel est en procès contre son peuple. L'Éternel est également fâché contre les responsables du peuple. C'est ce que nous révèle le chapitre 3. Je vous lis les deux premiers versets. « Écoutez donc, chef de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devriez-vous pas connaître le droit ? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. » Et la conclusion de cette série de trois oracles contre les responsables du peuple est terrible. Michée annonce la destruction de Jérusalem et de son temple. Verset 12. « Aussi par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. Le mont du temple sera une colline couverte de broussailles. » D'après le prophète Jérémie, cette parole de Michée a été un véritable électrochoc pour le roi Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux, brisé les stèles des idoles, coupé le pieu sacré de la déesse Asherah, et même mettre en pièces le serpent de bronze qui était devenu un objet de culte idolâtre. Parce qu'il a écouté et réagi courageusement à la parole du prophète, parce qu'il a imploré l'Éternel, le roi Ézéchias ne verra pas la chute de Jérusalem. Elle ne surviendra que 130 ans plus tard. Et nous, comment réagissons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'une parole, une parole de connaissance, une parole de prophétie est donnée, comment réagissons-nous? Le prophète Jérémie précise que le roi Ézéchias aurait pu mettre à mort le prophète Michée à cause de sa prophétie. Mais il a choisi de craindre l'Éternel et il a trouvé le courage d'inverser la tendance. Le pli pris par le peuple tout entier. Et nous, est-ce que nous mettons à mort la parole donnée? Ou est-ce que nous craignons l'Éternel au point de trouver le courage d'inverser la tendance de nos propres mauvaises attitudes, de nos propres mauvaises habitudes? Et peut-être même, comme le roi Ézéchias, d'inverser la tendance des mauvaises attitudes des personnes dont nous avons la responsabilité, dans notre famille, dans notre église, dans notre travail, pourquoi pas. Comment réagissons-nous à l'écoute de la parole de Dieu? Prenons quelques instants à nouveau pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que tu as lu ou entendu ces derniers temps de la part de Dieu? Et qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as mis à mort cette parole ou est-ce que tu l'as véritablement écoutée et courageusement mise en pratique? Nous arrivons à la seconde partie de cette prédication. Qu'est-ce que Michée annonce à ses contemporains pour des temps à venir? En un mot, la paix. Et il me semble que c'est l'accent prophétique particulier de ce livre que je vous propose de retenir à accent que nous sommes appelés à porter également. Nous y reviendrons dans la conclusion. Les trois oracles des chapitres 4 et 5 constituent un triptyque. Comme en peinture, par exemple, ils apportent chacun une touche particulière et ensemble, ils forment un tout. Dans le premier oracle, des annonces sont faites au sujet de la montagne de Sion. Ce sont donc des annonces de nature religieuse. Dans le deuxième oracle, des annonces sont faites au sujet de la citadelle, l'Ophel de Sion. Ce sont donc des annonces de nature politique. Dans le troisième oracle, des annonces sont faites, et de manière surprenante, au sujet de Bethléem, une insignifiante bourgade de Juda. Et ces annonces, au sujet de Bethléem, soulignent l'humilité de la venue du Messie, la simplicité de la venue de celui qui doit pourtant régner sur son peuple, régner religieusement et politiquement. Et ce règne du Messie, qui va régner pour le compte de l'Éternel, sera un règne de paix. Au verset 4 du chapitre 4, le prophète utilise les images du figuier et de la vigne, des images de paix, de sérénité, de prospérité. Chacun habitera en paix sous sa vigne et son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. Dans le chapitre suivant, nous lisons à propos de celui qui sortira de Bethléem, nous lui devrons notre paix. Et ce règne de paix annoncé par le prophète Michée est venu. L'apôtre Paul cite cette parole dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens d'Éphèse. Lisons ensemble ce passage, Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 18. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Nous lui devons notre paix. En Christ, la paix avec Dieu. En Christ, la paix les uns avec les autres. Et l'Église est le lieu où règne le Messie. Le lieu où le règne de paix du Messie doit être manifeste, visible. Les murs qui nous séparaient ont été abattus. Est-ce que notre communauté reflète bien cette paix? Ou est-ce qu'il reste des murs entre nous? Des murs culturels peut-être, sociaux, spirituels, relationnels ou que sais-je encore? Il y a entre nous des différences. C'est certain et c'est tout à fait légitime. Elles nous enrichissent les uns et les autres. Mais il ne doit pas y avoir de murs. Parce que les murs séparent. Et en Christ, ces séparations n'ont plus lieu d'être. Ces séparations ne doivent pas résister à l'œuvre de réconciliation accomplie par Christ à la croix. Alors prenons de nouveau quelques instants pour réfléchir aux murs, aux séparations que nous aurions maintenues, voire construites entre nous. Et si Dieu nous montre un mur, alors laissons-le l'abattre. La paix. La paix avec Dieu, la paix entre nous. La manifestation concrète du règne de paix de Christ au milieu de nous. C'est cette facette du témoignage prophétique que le prophète Michée nous invite à porter ici, dans le centre de la Bretagne. Et ce témoignage, particulièrement dans ces temps troublés, est puissant. Alors, faisons tous nos efforts pour rendre ce témoignage authentique et visible. Que le Seigneur nous y aide. Amen.